Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 21 juin 2021. Et puis, la grande question, c'est le reversal s'est-il mis en place? La psychologie de marché refait surface à 250. Nous sommes en pleine thérapie en ce moment. On est passé en quelques jours de la peur de l'inflation à la peur du ralentissement, mais surtout à la peur de la perte du soutien de la part des, des banquiers centraux. Hein. Le poids des mots qui ont été dits la semaine dernière, les déceptions au niveau de l'emploi de jeudi dernier ont fait que finalement le marché n'en peut plus et on a vécu une fin de semaine assez sanglante, on va dire, même avec mais tous les guillemets qu'on veut mettre autour, hein, ça a été quand même assez violent en fin de semaine dernière, et donc on a un espèce de reversal qui se met en place. La question, c'est combien de temps est-ce que ça va durer. On a ce matin une ouverture assez moche, mais voire très moche en Asie. Les futurs sont indiqués à la baisse. On attend le témoignage de Powell cette semaine devant le Congrès mardi et mercredi, qui pourrait peut-être nous sauver la mise. Mais pour l'instant, pour être franc, on est assez mal barré. Et puis, tout le monde se pose plein de questions. Alors, on a déjà un truc qui est assez fou, c'est que depuis deux jours, au travers du week-end, tout le monde a commencé à analyser les rendements du 2 ans, du 5 ans, du 10 ans, du 20 ans et du 30 ans américain. Donc on voit, hein, quand on a déjà parlé souvent dans ces émissions, quand on a les variations de rendement du 10 ans, ça nous permet de tirer certaines conclusions. Mais quand vous arrivez à analyser le package du 2, du 5, du 10, du 20 et du 30 en même temps, eh bien ça nous donne encore d'autres indications futures sur l'avenir et la perception des taux d'intérêt pour les investisseurs. Donc évidemment, par rapport à ce que nous a dit Powell il y a quelques jours, on s'attend à une hausse des taux d'ici deux ans, mais après un aplatissement derrière. Enfin bref, tout le monde en tire des analyses de folie. Ce qui est assez fou, c'est que d'habitude on s'en fout, mais comme notre première chemise. Mais là, tout d'un coup, on est en train de tous tirer des conclusions sur comment investir pour les 2-3 ans à venir, alors que la plupart d'entre nous ont une vision à 15 jours sur leurs investissements, parce que ce qui est vachement plus important, c'est combien et comment faire pour gagner beaucoup d'argent très très vite. Donc du coup, c'est assez marrant comme tout d'un coup, en l'espace de quelques heures, hein, en passant de la peur de l'inflation, on était terrorisé d'avoir une inflation durable et persistante et beaucoup trop forte, voire galopante dans les prochains jours, que tout d'un coup, eh bien, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et puis, on se dit, bah non, finalement, c'est plutôt un ralentissement. Et puis quid du fait que si tout d'un coup, les banques centrales arrêtent de racheter des assets, hein, dans le marché. On a parlé de tapering la semaine dernière. Bref, la peur est parmi nous. Et donc, du coup, attention à l'arrivée des gourous, hein, parce que ça a déjà commencé ce week-end. Il y a monsieur John Hussman, qui est régulièrement bearish sur les marchés. Mais là, il s'attend à une explosion. Mais une explosion de la bulle, hein, et tout soudain, bientôt, là. Et puis alors après, derrière, il nous prévoit pas forcément une correction spécifique. On sait qu'il y a quelques mois, il parlait de 35% de baisse sur le S&P 500, mais là, il nous prévient, si ça se produit, on va avoir 12 ans de rendement négatif sur le S&P 500. Pas 11 ans, pas 13, mais 12. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas 12,5 non plus, ni 11,5, c'est 12 très précisément, donc on peut au moins en tirer des conclusions. Mais enfin voilà, donc on commence à avoir déjà les gourous, donc je peux déjà vous parier que cette semaine sur CNBC, ça va être un défilé de bears qui vont nous dire comment on va mourir et à quelle vitesse. Si on regarde simplement le Japon ce matin, eh bien on peut se dire déjà qu'on risque d'avoir une semaine spectaculaire. Donc attendez-vous à une hausse de la volatilité. Et la seule chose qui peut nous sauver dans l'immédiat, c'est effectivement, comme je l'ai dit en début de podcast, une intervention de Powell qui dit « Mais attendez les gars, on n'a rien dit. On n'a rien dit d'officiel. On n'a pas dit qu'on commençait un tapering. On n'a pas dit qu'on allait monter les taux le 15 janvier 2023 et puis une deuxième fois le 15 mars 2023. On a dit qu'on allait probablement avoir deux hausses de taux en 2023. Probablement avoir. Conditionnel. Probabilité. Même pas sûr. Et là, vous êtes en train de nous faire un caca nerveux. Il n'y a pas d'autre terme. Alors que la Fed n'a ni confirmé un tapering et ni annoncé officiellement les dates des prochaines hausses des taux, même en 2023. Donc pour l'instant, il peut aussi réinverser la tendance et c'est peut-être ce qu'il va essayer de nous faire cette semaine. Allez savoir. Petit point sur le Bitcoin. Alors je devrais pas en parler parce que de toute façon j'ai aucune légitimité là-dessus, mais j'aimerais juste quand même dire deux mots sur le fait que on a quand même un graphique qui est assez exceptionnel sur le Bitcoin, hein. Techniquement, c'est vraiment très moche, donc il faut quand même le signaler, même si on pourra me dire que l'analyse technique ça n'a rien à voir sur les crypto-monnaies. Je suis entièrement d'accord, mais je voulais quand même le dire parce qu'au moins je l'aurais dit. Je pourrais dire si jamais ça se produit, bah que j'avais raison. En tout cas, je l'avais annoncé. Donc, la tendance baissière qu'on avait, il y avait deux espèces de deux canaux baissiers parallèles qui étaient avec une zone de pivot dans la zone des 35 000 dollars. Et si on venait en dessous des 35 000, c'était pas terrible. Ce qui est fait ce matin, on a 34 000. Et puis surtout, alors, on a officiellement sur le graphique du Bitcoin dollar, hein, une dead cross. Alors, une dead cross, c'est le croisement de la moyenne mobile des 200 jours et de la moyenne mobile des 50 jours. Donc la 50 passe en dessous des 200, ce qui veut dire que ça déclenche une tendance baissière sur le long terme. La dernière fois que ces deux moyennes se sont croisées, cette fois à la hausse, qu'on appelle une golden cross, c'était à 8 000 dollars sur le Bitcoin. Donc c'est pas une super bonne nouvelle fondamentale. Alors ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, c'est dead cross, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est pas très très beau. Et puis, bah, si on prend simplement le bas du canal où on risque d'aller quand même tester à un moment ou à un autre, eh bien, c'est à 20 000 dollars sur le Bitcoin. Voilà, c'était juste une analyse graphique à deux balles de ce matin, mais il faut quand même le savoir. Alors, au niveau des idées du jour, je vais faire l'impasse aujourd'hui parce que c'est trop brumeux quand on a des week-ends comme ça avec une clôture dégueulasse le vendredi, tous les indices terminant au plus bas et que des commentaires négatifs sur l'avenir avec un ralentissement économique et la peur de l'emploi qui ne reprendrait pas aussi vite qu'on aimerait. Eh bien, c'est pas forcément le bon jour pour se lancer à prendre des positions, surtout à la hausse. Donc, je pense que les prochaines 48 heures, en tout cas, jusqu'à demain soir, ce sera assez décisif pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que ce sera, on est en train d'entrer dans une correction durable ou est-ce que c'est simplement une petite panique à court terme qui va être inversée d'ici quelques jours? À noter quand même que la techno tient mieux que le reste, hein. On a vu que la semaine dernière, c'est surtout les cycliques qui se sont fait détruire dès que Bollard a mentionné le mot tapering. Mais la techno se comporte mieux. On sait que la techno a peur de l'inflation. Donc, si on part du principe qu'il n'y a pas d'inflation, il y a encore un seul truc qui peut encore espérer. Et c'est de ce côté-là. Deux questions aujourd'hui. La première concerne la société Box. Donc la société a fait savoir aux détenteurs d'actions qu'elle planifie un rachat d'environ 500 millions de dollars au prix entre 22,30 et 22 et 25,75. La personne me dit qu'elle ne veut pas vendre ses actions, mais elle voudrait connaître l'impact sur le cours durant l'opération de rachat. Va-t-il à coup sûr descendre jusqu'en bas de la fourchette ou pas? Non, il n'y a rien qui est sûr, mais quand on fait ce qu'on appelle, quand une société appelle fait un share buyback, dépendant de la taille, dépendant du montant, dépendant du titre, dépendant du volume, eh bien généralement, évidemment, comme on annonce qu'on va racheter des actions, c'est toujours plus ou moins un soutien psychologique pour les actionnaires. Donc simplement, ce que veut dire Box, c'est qu'eux, ils sont prêts à payer dans cette zone-là. Ils vont faire un rachat qui va durer, normalement, ils fixent des durées là-dedans, mais durant quelques mois, et que eux, ben, ils seront prêts à acheter dans cette zone-là. En dessous, ils ne rachèteront plus. Et en dessus, eh bien non plus. Donc ce sera vraiment uniquement dans cette zone-là. Donc ça peut offrir un certain soutien, ça c'est clair. D'ailleurs, on le voit hein, récemment quand vous avez des share buybacks qui sont annoncés, des gros share buybacks pour des grosses bêtas du marché, eh bien ça offre un soutien assez intéressant à la société parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la boîte elle-même est prête à utiliser son cash pour réduire son capital distribué et simplement parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui il n'y a pas mieux à faire que d'investir en eux-mêmes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt encourageant pour la société en général. C'est clair que c'est quelque chose de positif. Après, ça dépend toujours de la situation globale des marchés, mais en général, ça se fait régulièrement et c'est toujours pris comme une nouvelle positive, plus au début que 3 mois après, parce que souvent on a tendance à oublier qu'il y a toujours des acheteurs, mais c'est toujours bon et sain d'avoir quelqu'un qui est toujours là derrière vous en train de racheter un petit peu vos propres actions. Deuxième question, l'action Nike est dans une tendance baissière depuis novembre 2020, après avoir fait un gros rebond post-crash de mars 2020. Cela dit, sur une vue plus long terme, le cours est relativement haussier. Est-ce qu'un prix autour des 130 te semble un bon point d'entrée pour un horizon moyen terme, 6 mois, 1 an, ou faut-il attendre un retournement significatif? Alors, quand on regarde le graphique de Nike, c'est pas très 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 encourageant là tout de suite. Alors effectivement, si on prend sur le long terme, on est effectivement dans un canal haussier, mais là je dirais plutôt qu'on est dans une espèce de configuration latérale avec un énorme top qui est en train de se construire pour l'instant. Et le top, il passe plus ou moins par les 128, j'irais même 125 dollars, hein. 125 dollars, c'est le gros support qu'il ne faut pas lâcher. Et si ça lâche, là, la porte est ouverte à toutes les fenêtres pour perdre, je dirais en tout cas 25% et se reposer sur la zone des 100 dollars. Aujourd'hui, tout le monde attend de voir un petit peu les fondamentaux de Nike. Ça tombe bien parce que le 24 juin, ils vont publier leurs résultats. Et en fonction de leurs résultats, on pourra avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on peut espérer sur le titre. Donc, fondamentalement, si les chiffres sont bons, c'est un titre qu'on va voir remonter et puis on se dira, ah bah zut, je l'ai raté. Par contre, c'est clair qu'en cas de déception, on va rentrer dans quelque chose d'assez moche d'un point de vue technique, puisqu'en plus, on a là aussi une golden cross comme le Bitcoin que je citais tout à l'heure. On a les moyennes mobiles 50 et 200 jours qui se sont croisées. Il y a deux séances ou une séance, donc c'est pas un signe technique très positif à moyen terme. Mais voilà, la décision à prendre reviendra, la décision sera prise le 24 juin sur les résultats. En attendant, c'est que de la pure spéculation. Donc voilà, fondamentalement, sur le très long terme, à 125 dollars, être long Nike, je me sentirais pas complètement dans une situation dramatique. Aujourd'hui, tout le monde va regarder un petit peu comment ça reprend pour de vrai. On a eu ce recovery qui s'est fait dans la période post, enfin la période du confinement en mars 2020, où tout le monde s'est rejeté dessus en disant mais oui, mais les gens ils vont reconsommer. Et là, on attend vraiment de voir les chiffres de la consommation aux États-Unis, mais aussi en Chine pour Nike avant de prendre une décision. Alors techniquement, si je fais purement du technique, là j'aurais envie de dire sur la zone des 125, c'est intéressant, mais il y a une Golden Cross qui me dérange. Donc je me mettrais long éventuellement avec un stop loss extrêmement serré. Par contre, la problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, quand ils vont publier les chiffres, eh bien, vous n'aurez peut-être pas forcément le temps de réagir avec de couper votre position, ça va pas dans la bonne direction. Donc voilà ce qu'on peut un peu dire sur Nike, mais c'est pas le graphique qui me fait le plus vibrer ou sur lequel je me jetterais à la première occasion. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, une semaine qui risque d'être un petit peu plus active et un peu plus intéressante que ce qu'elles nous ont habitués ces derniers temps. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous.